Question 1. Quelle place accordez-vous à la collaboration en équipe par les pairs? Réponse. La place accordée à la collaboration entre équipes ou entre les pairs devrait être primordiale. Par contre, la réalité de chacun des milieux amène certaines contraintes qui limitent la collaboration. Il faudrait par contre continuer de favoriser celle-ci afin de bonifier notre compréhension des concepts et processus, faciliter l'arrimage entre les différents niveaux, augmenter l'efficacité de la planification ou de la création de matériel, et surtout amener les enseignants à se questionner et à évoluer vers de meilleures pratiques, toujours plus efficaces et qui viennent favoriser l'engagement et la compréhension des élèves. Question 2. Le modèle présenté existait-il déjà ou a-t-il été créé? Réponse. Le modèle présenté est en grande partie déjà existant dans les manuels scolaires et les écoles. Par contre, le fait d'avoir un modèle uniforme, progressif pour l'ensemble des enseignants et élèves est l'aspect que nous avons priorisé. Nous avons conservé ce que nous aimions et qui était démontré efficace des modèles de résolution de problèmes, tout en ajoutant la touche personnalisée de notre école centrée sur les stratégies.
Voici la réponse à la troisième question. Alors, la question était, existe-t-il des données pour démontrer que le modèle aide réellement les élèves en difficulté d'apprentissage à surmonter certaines difficultés? Donc, voici ma réponse. Il n'y a pas beaucoup de données scientifiques. Malheureusement, il y a très peu de recherches sur l'enseignement des mathématiques, puis encore moins au niveau secondaire. Cependant, les quelques recherches qu'ils disent s'entendent pour dire que donner une structure aux élèves en grande difficulté d'apprentissage les aide énormément. Donc, ce qui a été présenté lors du webinaire est basé sur notre expérience commune à Karine et moi auprès des élèves en grande difficulté d'apprentissage avec qui on travaille depuis plusieurs années. Nos observations, justement, nous démontrent que quand un élève applique ce modèle, ça l'aide énormément à s'organiser, à cibler les informations pertinentes du problème, à comprendre vraiment la question, tout ceci, évidemment, pour arriver à résoudre adéquatement le problème. Donc, finalement, on se base sur les résultats de nos élèves. Nos élèves, depuis qu'on applique le modèle, réussissent mieux au niveau de leurs notes au bulletin. Hein, c'est une façon de quantifier s'ils réussissent ou pas. Et ils réussissent aux examens du ministère de la province du Québec, évidemment. Bonjour, voici la réponse à la question 4. La question était... Comment faites-vous pour que l'enfant réussisse à trouver les données pertinentes? Alors, voici ma réponse. Tout commence vraiment avec les stratégies de lecture. Il faut se rappeler que même si on est en mathématiques, il faut qu'ils lisent le problème. Alors, c'est important qu'en classe, les enseignants modélisent continuellement ces fameuses stratégies de lecture à travers le problème mathématique. Aussi, il faut qu'ils demandent aux élèves de les recopier lorsque l'enseignant modélise. Et il faut aussi qu'ils demandent que les élèves appliquent ces stratégies-là lorsqu'ils font leur travail autonome. Donc, comment on fait pour trouver les données pertinentes? L'enseignant doit modéliser le questionnement que l'on doit faire lors de la lecture du problème. On est en maths, donc évidemment, tout ce qui est nombre, quantité, unité de mesure, sont nécessairement importants et doivent être soulignés. Il ne faut pas juste arrêter à souligner, il faut interpréter. C'est là où nos élèves en grande difficulté ont beaucoup de problèmes. C'est interpréter une donnée qui nous assure qu'elle est vraiment bonne, que c'est une donnée pertinente. Si la donnée ne correspond pas à un élément qu'on va avoir besoin pour faire un calcul, pour arriver à répondre à la question, ou si ce n'est pas une mesure qui est dans l'illustration du problème, ce n'est pas une donnée pertinente. Donc, souvent, nos élèves sont très bons à souligner ce qu'ils pensent être une donnée importante, mais des fois, ils soulignent bêtement sans se questionner. Alors, c'est vraiment l'interprétation qui est la clé. Ça permet aux élèves de s'assurer que la donnée qu'ils ont soulignée, elle est vraiment pertinente au problème. Évidemment, c'est très difficile avec notre clientèle, avec nos élèves en grande difficulté d'apprentissage, d'où la modélisation du questionnement que l'enseignant doit faire continuellement. c'est bien beau d'avoir cette étape, hein, ce que je sais, qui est dans la démarche de résolution de problèmes, mais il faut modéliser à nos élèves, il faut leur expliquer la pertinence de cette étape et le questionnement qui accompagne cette étape pour bien résoudre finalement le problème. Et finalement, ben, comment on fait pour trouver les données pertinentes? C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Comme je disais pendant le webinaire, oui, nous enseignants, il faut qu'on modélise, mais à un moment donné, il faut qu'on laisse les élèves pratiquer et ensuite qu'on les accompagne. J'espère que ça répond à votre question.
Question 5. Comment promouvoir une mentalité de croissance envers les mathématiques? Réponse. Il faut favoriser la réflexion chez les intervenants, donner accès aux ressources permettant de bonifier les connaissances déjà acquises chez ceux-ci, mais aussi les renseigner sur les nouvelles connaissances et les nouvelles façons de faire, leur permettant d'offrir un enseignement qui permet aux élèves de modifier leur raisonnement. Il faut démontrer que ça fonctionne et que ça donne des résultats au-delà de ce que nous espérions. Lorsque les intervenants sont convaincus de la possibilité de s'améliorer, arriver à transmettre cette conception aux élèves sera d'autant plus facile et à leur tour, ils pourront croire en eux et en leur capacité à changer pour le mieux.